Hello, c'est Jonah du blog Objectif Vie en Van et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Mais avant ça, avec Gabriel, on a une grosse annonce à vous faire. On a enfin mis en ligne notre forum Van Life. Sur celui-ci, vous pourrez poser toutes vos questions et vous pourrez également échanger avec de nombreux autres membres qui sont comme vous, passionnés par la vie en van. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur internet et taper forum.objectif-vie-en-van.com ou bien vous pouvez tout simplement aller sur objectif-vie-en-van.com, notre blog, et accéder au forum via le menu du site. Sinon, il y a aussi un pop-up qui s'ouvre et vous pouvez cliquer dessus et ça vous emmènera sur le forum. Pour participer au forum, il faut simplement s'inscrire et après vous pourrez commencer à poser toutes vos questions et à répondre aux autres membres du forum. Voilà, on espère que ce sera quelque chose qui pourra vraiment vous servir et qui va pouvoir vous aider dans vos interrogations et puis peut-être que vous pourrez faire de belles rencontres sur ce forum. Voilà, bon, maintenant revenons à nos moutons. Le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est les différentes étapes pour acheter un van d'occasion à un particulier. Donc vraiment, ce podcast, il va servir à vous accompagner, à vous guider pour que vous fassiez les choses dans l'ordre et que vous fassiez les choses bien. Voilà, sans plus attendre, c'est parti! Tout d'abord, avant de commencer réellement la recherche du véhicule, vous allez devoir tout simplement définir les critères principaux du véhicule de vos rêves, que ce soit en termes de taille, d'aménagement déjà présent ou non, de motorisation, etc. Vous allez devoir donc définir vos besoins et vos envies. Pour ça, peut-être que vous pouvez passer par de la location. C'est souvent ce qu'on conseille parce que louer un van pour un week-end ou une petite semaine, ça permet de mieux se rendre compte tout simplement de la taille, des aménagements, des équipements dont vous aurez besoin. Et ça va vous aider à définir le type de véhicule dont vous avez besoin. Et une fois que vous aurez réuni tous les critères importants que doit contenir votre véhicule, vous pouvez enfin commencer la vraie recherche. Alors, où chercher? Tout simplement sur les sites d'annonce de véhicules d'occasion, que ce soit Le Bon Coin, sûrement le plus connu, Wikicampers Occasion, Weekend Go. La centrale, ce sont, je pense, les plus connus. Nous, personnellement, nous avons trouvé Hermès, notre fourgon, sur Le Bon Coin. Si je devais vous conseiller une manière de chercher, je dirais d'utiliser les filtres parce que ils peuvent vraiment vous servir à affiner votre recherche, à trouver directement des véhicules qui vous correspondent. Donc, vous pouvez utiliser les filtres de recherche. Il y a par exemple la localisation. Donc, si vous voulez pas acheter un véhicule qui est à l'autre bout de la France, par exemple, ça c'est pas mal. Vous pouvez utiliser les filtres pour les modèles de véhicules, mais également les filtres sur l'année de mise en circulation et surtout le budget maximum. Nous, on s'en sert toujours du budget maximum parce que tout simplement pour pas se dépasser notre budget, parce que sinon on a tendance à avoir des véhicules qui font rêver, mais qui sont pas dans notre budget, donc voilà. Ensuite, je vous conseille vraiment de chercher assez régulièrement. Enfin, nous, personnellement, quand on cherchait un fourgon, on regardait entre une et deux fois par jour, avec donc toujours les mêmes critères qu'on rentrait dans les filtres. Une à deux fois par jour, parce que les annonces, elles viennent, et quand il y en a une, je pense qu'il faut la saisir, surtout si elle est intéressante. Après, je dois vous prévenir quand même d'avance, c'est que la recherche d'un fourgon, d'un van, ça prend du temps. Peut-être que vous trouverez pas la perle rare dès le premier jour. Peut-être qu'il va vous falloir quelques mois pour trouver votre fourgon, mais vous inquiétez pas, ça va le faire, vous allez trouver. Donc évidemment, vous allez voir plein d'annonces. Peut-être certaines vont vraiment correspondre à vos attentes et d'autres un peu moins. Et donc la deuxième étape pour acheter un véhicule d'occasion, c'est de prendre le temps de sélectionner les bonnes annonces, celles qui sont pertinentes pour vous. Donc, nous, personnellement, les critères qu'on regarde dans les annonces, c'est si elles sont bien rédigées, parce que pour nous, la manière d'écrire et les détails qu'on donne à l'annonce, etc., si on a pris le temps de noter, je sais pas, les derniers entretiens qui ont été faits, à quoi servait le van, quand est-ce qu'il servait, etc., pour nous, c'est vraiment un point positif. Ça veut dire que les gens, ils sont engagés, ils ont envie, de le vendre, ils ont, enfin, je sais pas, ils ont pris le temps de faire ça, et c'est pas tous les vendeurs qui font ça. Je sais pas si vous avez déjà regardé les annonces sur les sites d'occasion, mais parfois, bon, il y a seulement écrit vent, fourgon. Bon, c'est pas trop détaillé, c'est ça. Je pense que c'est pas les bonnes annonces. Alors après, chacun son point de vue. Nous, personnellement, on a besoin d'avoir l'impression qu'il peut y avoir un feeling avec le vendeur, et on le ressent assez dans la manière d'écrire. Après, peut-être que vous, vous êtes un peu moins sensible à ces petits trucs. Après, ce qui compte aussi, c'est la manière dont sont prises les photos. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas obligé d'avoir un très bon téléphone qui fait de belles photos. On le conçoit, mais des photos de qualité, de bonne qualité, bon, ça donne un peu plus confiance, on va dire. Ensuite, si vous avez repéré un ou plusieurs véhicules, vous allez pouvoir prendre contact avec le vendeur. Donc, n'hésitez pas à envoyer un message sur la plateforme. Par exemple, sur Le Bon Coin, il est assez facile d'envoyer un message au vendeur. Il y a un petit bouton, vous cliquez, ça ouvre une messagerie, vous pouvez envoyer votre message. Sinon, parfois, ils mettent leur numéro de téléphone. Donc, si vous êtes plus à l'aise par téléphone, vous pouvez directement appeler. Parfois, ça peut permettre d'avoir un avis plus concret sur le vendeur. On peut se rendre compte si c'est une personne qui nous plaît. Si le vendeur vous fait bonne impression, vous vraiment plus envie d'acheter sûrement. Donc au moment de la prise de contact, vous allez pouvoir demander plus de photos, le détail du contrôle technique, parfois même une photo du contrôle technique, les derniers entretiens qui ont été faits si c'est pas mentionné dans l'annonce, des informations sur les équipements, comment a été utilisé le véhicule, sa consommation moyenne. Vraiment, il n'y a pas de questions bêtes, posez toutes les questions qui vous passent par la tête. Le vendeur, justement, si le vendeur vous répond et qu'il ne vous trouve pas agaçant, ça veut dire que c'est un bon vendeur et vous pouvez avoir confiance en lui. En fait, le premier contact, il va vraiment être décisif pour savoir si vous voulez vraiment acheter ce véhicule ou non. Pour nous, le feeling, il est ultra important. On a déjà été voir des fourgons où, bon, le feeling avait l'air de passer par SMS et finalement, dans la vraie vie, pas du tout, et on le sentait pas. Et quand c'est comme ça, la vente, elle n'a pas abouti, quoi, voilà. Donc si tout s'est bien passé, que le feeling passe assez bien entre vous et le vendeur et que tous les détails correspondent à vos attentes, vous pouvez maintenant passer à l'étape numéro 4, c'est-à-dire celle de la prise de rendez-vous. Donc vous allez discuter avec le vendeur pour déterminer du lieu, du jour et de l'horaire à laquelle vous pouvez fixer ce rendez-vous. On a plusieurs conseils à vous donner. Donc déjà, concernant le lieu, vous pouvez vous donner rendez-vous soit chez le vendeur, ça vous permettra de mieux comprendre l'environnement du fourgon, donc par exemple là où il a été entreposé pendant quelque temps, etc. Et ensuite, vous pouvez également vous donner rendez-vous dans un lieu public. D'autres conseils concernant le jour et l'horaire, préférez un jour où il fait beau. Donc, bon, bah, évidemment, c'est pas super facile de savoir à l'avance s'il va faire beau, mais en fait, quand il fait beau, on prend plus son temps et donc on va mieux regarder, on va dire, parce que ben, si jamais il pleut. C'est bête, mais on va avoir tendance à se presser parce que bah c'est pas agréable la pluie, voilà tout simplement. Et peut-être que vous passerez à côté de détails qui feraient que vous n'allez pas acheter ce fourgon. Et ensuite, concernant le jour et l'horaire, aussi prenez un rendez-vous sur une plage horaire où vous n'avez pas d'autres rendez-vous après, parce que sinon vous allez être un peu pressé par le temps et vous allez passer à côté de détails importants. Et dernier petit conseil concernant ce rendez-vous, vous pouvez essayer de trouver une personne pour vous accompagner lors de ce rendez-vous parce que ça peut vous rassurer en cas de problème et puis peut-être trouver quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en mécanique si jamais vous n'êtes pas trop calé sur ce sujet. Ça vous rassurera et puis comme ça, vous vous sentirez un peu épaulé et il pourra vérifier avec vous les points mécaniques importants. Ensuite, vous pouvez passer à la cinquième étape, le rendez-vous en lui-même. Donc, dans ce rendez-vous, il y aura une première sous-étape, c'est l'inspection. Vous devez absolument Inspecter le véhicule, donc faire des vérifications extérieures et intérieures. Donc dedans, il y a vérifier l'état de la carrosserie, le châssis, on recherche absolument tous les points de rouille, regarder les bosses, les autres défauts, l'état des pneumatiques, l'état des joints, l'état des disques de frein. Ensuite, sous le capot, on regarde l'état de la batterie moteur, l'état de la courroie de distribution, il faut vérifier les niveaux, les bocaux de liquide. Dans la cabine conducteur, on vérifie le verrouillage des portes, l'ouverture des fenêtres, le klaxon et son bon fonctionnement, le réglage des sièges, les essuie-glaces, l'autoradio, la soufflerie, la climatisation, les lumières, les phares, les pare-soleils, tout ce qui peut fonctionner dans une cabine, il faut que ça fonctionne. Donc, il faut tout vérifier. Ça prend du temps. On peut passer pour des gens très maniaque, mais il faut le faire, c'est important. C'est quand même un gros achat, un fourgon, donc on vérifie tout. À l'intérieur du camion, on va regarder le bon fonctionnement des équipements, s'il y en a, regarder l'état de l'aménagement, s'il y en a un. Faut demander vraiment si tout fonctionne. Il faut demander également comment tout fonctionne, comment, parce que c'est très important. Il faut demander tous les détails qui vous viennent à l'esprit. Et vous allez également demander à voir les papiers du véhicule, donc le procès-verbal du contrôle technique, vu qu'il normalement il a été passé et qu'il a moins de 6 mois, le compteur kilométrique, faut regarder la carte grise et vérifier la mention. Alors parfois il y a soit la mention VASP, soit la mention CTTE. VASP, attention, il n'y a pas seulement VASP, c'est pas, ça veut pas dire véhicule aménagé. Enfin, il y a plusieurs sortes de VASP. Nous, par exemple, on a un véhicule VASP, mais il est atelier, il n'est pas VASP caravane. Donc, vérifiez bien sur la carte grise. Vérifiez également le carnet d'entretien s'il y en a un, les dernières factures si elles sont disponibles. Voilà. Donc, vraiment, ça prend du temps. Mais c'est vraiment important de vérifier tous ces petits points-là. Surtout, ne soyez pas timide. Vous avez totalement le droit de demander à tout voir, à tout savoir, même si vous passez pour quelqu'un d'un petit peu rabat-joie ou un peu chiant. C'est comme ça. C'est pas un petit achat. Vous avez le droit. Vous êtes dans vos droits de tout voir et de tout demander. C'est comme ça. Et ensuite, la deuxième sous-étape, donc, dans ce rendez-vous, ça va être le test sur route. C'est assez déterminant d'ailleurs. Donc, pour commencer, vous allez demander à allumer le moteur et vous écouter son bruit. Est-ce qu'il tourne rond ou pas? Est-ce qu'il démarre au quart de tour? Ça, c'est déjà, c'est un très bon signe. Ensuite, vous devez également vérifier le pot d'échappement. Est-ce qu'il fait du bruit? Est-ce qu'il y a de la fumée? Est-ce qu'il y a une odeur particulière? Évidemment, si vous achetez un fourgon aussi vieux que notre fourgon Hermès, c'est un vieux diesel, donc forcément ça sent un peu fort, mais c'est normal. Voilà, mais il faut quand même vérifier tout ça. Ensuite, pour le test sur route, vous pouvez d'abord donc choisir de laisser le vendeur conduire. Ça peut vous permettre d'avoir une idée de comment est-ce que lui conduit le fourgon et de comment est-ce qu'il a été traité. Et ensuite, vous pouvez demander à prendre le volant. Ça vous donnera une idée de comment se conduit ce véhicule. Surtout si vous avez jamais conduit de fourgon, d'utilitaire, de van, ça peut être perturbant au début. Donc, c'est mieux de se rendre compte. Alors, pensez à tester toutes les vitesses et l'embrayage, de tester également la marche arrière, l'accélération et le freinage, le parallélisme en ligne droite, également l'angle de braquage, les suspensions, les clignotants, et regardez que tous les voyants sur le tableau de bord s'allument et c'est déjà pas mal. Et également, pendant le rendez-vous, on a un petit conseil à vous donner. C'est celui de ne pas paraître trop intéressé. Ne montrez pas que vous avez absolument envie d'acheter ce fourgon. Ne donnez pas votre décision directement pendant ce rendez-vous. Maintenant que le rendez-vous s'est terminé, que vous n'avez pas donné votre décision, vous allez pouvoir rentrer chez vous et commencer à réfléchir. Donc là, vous allez devoir prendre vraiment votre temps pour réfléchir. Il faut absolument pas prendre une décision dans l'euphorie du moment parce que on peut faire des bêtises dans ce moment-là. Nous, on vous conseille de faire un tableau des pour et des contre et aussi de se renseigner sur le modèle de véhicule pour connaître les problèmes les plus fréquents sur ces modèles. Et puis voilà, avec ce tableau, vous allez pouvoir peut-être, ça va pouvoir vous aiguiller sur si c'est le bon choix ou non. Alors après, ça ne veut pas dire que ce sera le bon choix, mais ça va vous aider un petit peu. Si jamais vous hésitez vraiment, vraiment beaucoup, peut-être que ça veut dire que ce n'est pas le bon fourgon pour vous. Si vous n'êtes pas sûr, à 90%, ça veut dire Peut-être qu'il faut passer à d'autres visites de fourgons, en voir d'autres pour comparer. Et si jamais vous avez des questions qui vous viennent bah, après le rendez-vous que vous avez oublié de poser, n'hésitez surtout pas à recontacter le vendeur. De toute façon, s'il est intéressé, s'il a vraiment envie de vous vendre son fourgon, il vous répondra rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas ouais, à poser vos questions parce que bah, peut-être que ça peut être décisif, peut-être que ça peut vous aider à prendre votre décision. Et ensuite, donc, si vous avez pris une décision et qu'elle est positive, si vous avez vraiment envie d'acheter ce fourgon, vous pouvez passer à la septième étape. Elle est assez optionnelle, c'est de tenter une négociation. Évidemment, les vendeurs, ils ont tendance à mettre le prix un peu plus haut sur les plateformes bah, parce qu'ils savent qu'il y aura une phase de négociation et puis peut-être parce qu'ils ont un peu d'attache envers leur fourgon, donc ils augmentent le prix évidemment. Donc vous pouvez toujours tenter votre chance. Après, enfin, qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Évidemment, il faut négocier dans la limite du raisonnable. Pour bien négocier, en fait, il faudrait regarder le prix de l'Argus et ajouter le prix des équipements et des aménagements pour avoir à peu près une idée du prix réel. Et ensuite, vous prenez en compte également les petits défauts, les points bloquants que vous avez relevés lors de votre visite. C'est pour ça que c'est très important de tout bien regarder minutieusement et de tout noter bon, bah, dans votre tête si vous n'avez pas de carnet, mais voilà. Et ensuite, vous pouvez donc définir le prix réel auquel il devrait être vendu. Et en fonction de ça, décider d'un prix auquel vous souhaitez l'acheter. Sinon, on dit qu'une bonne négociation, c'est autour de 10% du prix de vente. On va jamais au-dessus parce que c'est peut-être pas très raisonnable. En fait, tout dépend du cas dans lequel vous êtes. C'est à vous vraiment de juger, mais 10% du prix, on dit que c'est à peu près bien, quoi. Et si tout s'est bien passé jusque-là, que vous avez obtenu le prix que vous souhaitez ou non, et que ben voilà, vous passez à l'achat, vous validez votre choix d'acheter ce fourgon, alors vous allez dans un premier temps bah, vous donner rendez-vous avec le vendeur pour que vous puissiez bah, passer à l'achat tout simplement. Donc lors de ce deuxième rendez-vous, on va quand même faire quelques vérifications, vérifier l'état du véhicule qui soit le même que lors de votre rendez-vous. Vous pouvez vérifier également le compteur kilométrique. Si vous voyez qu'il y a une petite différence de 30-40 km, c'est pas grand-chose, mais s'il y a une différence de 1000 km, bon, bah, posez-vous des questions. Vous pouvez faire un dernier test de tous les équipements, vérifier que tout y soit, et puis bah, refaire un test sur route si jamais vous avez besoin de confirmation. Voilà. Ensuite, le jour de la vente, le vendeur doit vous remettre quelques papiers importants. Donc, la carte grise barrée avec la mention vendu le, suivi de la date du jour et de la signature du vendeur. Le document de déclaration de cession papier. C'est un document CERFA qui est en deux exemplaires, un pour l'acheteur et un pour le vendeur. Il doit aussi vous remettre le certificat de situation administrative, ça s'appelle CSA ou certificat de non-gage aussi. Il doit dater de moins de 15 jours et il doit également vous remettre le procès-verbal du contrôle technique qui date de moins de 6 mois et puis bah, le carnet d'entretien si jamais il y en a un. Et il ne faut pas oublier, le vendeur, il doit vous transmettre un code de cession dans un délai de 15 jours après la vente. Et ça, c'est vraiment important parce que ça va vous permettre d'immatriculer le véhicule et de refaire la carte grise à votre nom ben, une fois que vous serez reparti avec. Une fois que vous avez tous ces papiers, vous pouvez passer à la transaction. Donc, ben, les moyens de paiement les plus répandus, c'est souvent le chèque de banque. Sinon, il y a également le virement SEPA. Et vous pouvez également payer en espèces, mais pour être plus prudent, il faut demander un reçu écrit, daté et signé pour avoir une preuve du paiement, tout simplement, pour pas qu'il y ait de problème par la suite. Nous, personnellement, on a utilisé le chèque de banque quand on a acheté le fourgon, c'est ce qui nous paraissait le plus sûr, mais le virement SEPA, c'est très bien aussi. Et après avoir finalisé la transaction, c'est donc le moment bah, de reprendre la route. C'est la neuvième étape, c'est le retour à la maison. Attention, pour prendre la route avec votre nouveau fourgon, il va falloir une assurance. Si vous contactez votre assurance, elle devrait pouvoir vous fournir une attestation d'assurance provisoire pour que vous puissiez ben, rouler avec votre nouveau fourgon. Donc là, voilà, c'est l'étape la plus importante, je pense, le premier trajet. Donc c'est le moment où vous allez devoir apprivoiser votre nouveau véhicule, comprendre les bruits, les sensations, également vous habituer au gabarit du véhicule. Donc attention à la hauteur, surtout si vous avez jamais conduit d'utilitaire, ça peut être surprenant au début, il va falloir être très très vigilant. Enfin après, il faut toujours être vigilant sur la route, mais encore plus quand c'est le premier trajet. Mais voilà, félicitations, vous avez enfin acquis un fourgon aménagé, vous allez pouvoir vivre de très belles aventures. Mais ce n'est pas la dernière étape, puisqu'il y a une dixième étape et d'ailleurs une onzième ensuite. Donc la dixième étape, c'est la demande de carte grise. Vous avez, après la vente, vous avez environ un mois, enfin pas environ, vous avez un mois pour faire la demande de carte grise à votre nom. Donc pour ça, vous avez besoin du code de cession que le vendeur doit vous fournir dans les 15 jours après la vente. Je vous en ai parlé juste avant dans les papiers qui doivent vous être fournis le jour de la vente. Donc le code de cession, il va vous servir, oui, à faire votre demande de carte grise. Et en attendant de recevoir votre nouvelle carte grise, l'ancienne carte grise, celle qui est barrée avec la mention vendu-le, elle compte, donc elle fonctionne pendant un mois. Vous pouvez la montrer en cas de contrôle de police. Et ensuite, la onzième et dernière étape, bon, elle est vraiment très 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 optionnelle. J'espère pour vous que vous n'aurez pas à aller jusque-là. C'est que faire en cas de problème majeur? Quel recours est-ce que vous avez? Alors, si jamais vous constatez des problèmes, que pour vous il y a des vis cachés ou des choses qui ne vont pas dans cette vente, vous avez la possibilité de faire un contrôle technique volontaire pour vérifier que le contrôle technique qui date de moins de 6 mois est correct. Donc évidemment, ce sera à vos frais, mais ça va pouvoir vérifier l'état du véhicule. Et si jamais il y a un problème, et ben vous allez pouvoir engager des poursuites contre l'ancien contrôleur pour faux contrôle. Et si jamais vous découvrez un défaut majeur qui vous empêche d'utiliser le véhicule et que vous pouvez prouver que ce défaut était déjà présent avant et pendant la vente, alors vous pouvez poursuivre en justice le vendeur pour vis caché. C'est une procédure assez compliquée, mais c'est faisable. Vous avez un délai de 2 ans maximum après la découverte de vis caché pour demander un remboursement, soit partiel ou entier, et ou alors exiger au vendeur d'effectuer les réparations à ses frais, puisqu'il était censé être au courant. Mais avant toute chose, si jamais vous rencontrez des petits problèmes, vous pouvez prendre contact avec le vendeur et discuter des solutions possibles avant d'entamer quand même des poursuites qui vont après vous lancer dans des démarches un peu plus compliquées. Voilà, c'était donc la dernière étape. Donc on espère que ce podcast pourra vous aider à faire votre premier achat de fourgon à un particulier. Si jamais vous avez besoin d'une trame écrite, vous pouvez vous référer à l'article. Il y a un article qui correspond exactement à ce podcast et peut-être que ça pourra vous permettre de mieux le suivre. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email à notre adresse mail, donc contact@objectif-vie-en-van.com. Et puis si jamais vous pouvez aussi poser toutes vos questions sur le forum, n'hésitez surtout pas, on se fera un plaisir de vous répondre et peut-être que vous aurez l'avis également d'autres membres sur vos interrogations. Et bien en attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.